Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Enshirah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élever haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 17 Esfand, 1402 du calendrier iranien, 7 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le nouveau Parlement apporte du sang frais dans la structure politique et sociale de l'Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Le nouveau Parlement apporte du sang frais dans la structure politique et sociale de l'Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Génocide à Gaza. Le Hamas a transmis sa réponse à la proposition de cesser le feu aux principaux médiateurs. Et enfin, la résistance islamique en Irak a lancé une nouvelle attaque contre des cibles israéliennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Lors d'une audience accordée jeudi 7 mars à Téhéran, au président et aux membres de l'Assemblée des experts, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré qu'un nouveau Parlement apporte du sang frais dans la structure politique et sociale de la République islamique d'Iran. Il a préconisé aux députés iraniens nouvellement élus à être vigilants et à ne pas désespérer la nation pour que le climat politique du pays ne paraisse pas opaque. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que les paroles qui divisent, les querelles et les hostilités favorables à l'ennemi peuvent affecter le nouveau Parlement, conseillant aux nouveaux députés de rester très prudents. Dans une autre partie de son discours, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souligné que la République islamique d'Iran s'opposer à ces atrocités et ces crimes commis par Israël dans la bande de Gaza, soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays européens. Le leader de la révolution islamique a souligné que la République islamique d'Iran devait rester à l'avant-garde de la bataille contre l'arrogance mondiale, renforcer sa lutte chaque jour et ne jamais permettre à quiconque de le vaincre. Il a expliqué que l'Iran n'a pas de conflit avec les gouvernements, les pays et les nations, mais qu'il s'oppose à l'oppression, à l'arrogance et à l'agression, comme les événements en cours dans la bande de Gaza. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Plus de 5 mois après le début de la guerre génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza, les frappes aériennes et les bombardements incessants du régime d'occupation continuent de faire des victimes innocentes dans le territoire assiégé. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 80 personnes ont été tuées et 140 autres blessées depuis mercredi. Plusieurs Palestiniens ont perdu la vie après que les soldats du régime sioniste ont de nouveau ouvert le feu sur la foule attendant des camions d'aide dans l'ouest de la ville de Gaza. Au nord de la ville de Gaza, un raid aérien contre une mosquée du camp de réfugiés de Jabalia a également fait des morts. Pendant ce temps, la malnutrition et la déshydratation persistent, infligeant de graves conséquences à la population palestinienne. Les sources médicales de Gaza affirment que le nombre de personnes mortes de malnutrition et de déshydratation est passé à 20. Plus de 30 800 Gazaouis, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués depuis qu'Israël a lancé sa campagne génocidaire contre l'enclave palestinienne sous blocus début octobre. Un haut responsable du Hamas a déclaré que le mouvement de résistance tentait d'obtenir la libération du plus grand nombre possible de prisonniers palestiniens dans le cadre d'un éventuel accord avec le régime israélien. Les remarques de Razi Hamad interviennent après que le Hamas a déclaré avoir transmis sa réponse à la proposition de cesser le feu aux principaux médiateurs, c'est-à-dire l'Égypte et le Qatar. L'agence Reuters a eu l'accès au plan qui montre que la première étape de 45 jours permettra l'échange de prisonniers, la libération de certains captifs israéliens non militaires et la livraison de l'aide. Il permettra également la reconstruction des hôpitaux et des camps de réfugiés à Gaza et le retrait des forces terrestres israéliennes des zones peuplées. Dans le cadre du plan, le Hamas a également proposé des pourparlers indirects avec Israël pour mettre fin aux opérations militaires. La deuxième phase permettra la libération de tous les prisonniers israéliens masculins en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens et le retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Les restes et les corps seront échangés au cours de la troisième phase de 45 jours. La résistance islamique en Irak a lancé une nouvelle attaque contre des cibles israéliennes dans les territoires occupés palestiniens en soutien au peuple palestinien de Gaza. La résistance irakienne affirme avoir ciblé avec un drone l'aéroport de Kiryat Shmona au nord des territoires occupés. Plus tôt cette semaine, la résistance a attaqué à 2 reprises le port israélien de Haïfa, frappant une installation chimique et une centrale électrique de son aéroport à l'aide de drones. La résistance islamique en Irak affirme qu'elle poursuivra ses attaques contre des cibles israéliennes jusqu'à ce que le régime sioniste mette fin à son génocide à Gaza. Elle a également frappé d'importantes bases militaires américaines en Syrie et en Irak dans un contexte de colère suscité par le soutien américain à la campagne génocidaire israélienne contre la bande de Gaza assiégée. Et enfin, le porte-parole du Kremlin affirme que l'Occident joue avec le feu en avançant l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a qualifié de dangereuse la situation évoquée par le président français Emmanuel Macron quant à une intervention terrestre pour défendre l'Ukraine. Il affirme que les déclarations de Macron interviennent dans un contexte de spéculation selon lequel l'Occident souhaite voir la Russie subir une défaite stratégique. Dmitri Peskov a également condamné les discussions des officiers allemands sur les frappes contre la Russie, affirmant que cela pourrait conduire à une nouvelle dégradation de la situation. Il a qualifié le comportement des pays occidentaux d'irresponsable. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, souligne que la formation de chaque nouveau parlement apporte de nouveaux espoirs et constitue un capital précieux pour le pays. Lors d'une audience accordée jeudi 7 mars à Téhéran, au président et aux membres de l'Assemblée des experts, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré qu'un nouveau parlement apporte du sang frais dans la structure politique et sociale de la République islamique d'Iran. Il a préconisé aux députés iraniens nouvellement élus à être vigilants et à ne pas désespérer la nation pour que le climat politique du pays ne paraissent pas opaques. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que les paroles qui divisent, les querelles et les hostilités favorables à l'ennemi peuvent affecter le nouveau Parlement, conseillant aux nouveaux députés de rester très prudents. L'Assemblée des experts ne doit jamais négocier les principes constants de la République islamique d'Iran dans ses décisions, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a estimé que la situation tragique dans la bande de Gaza était un exemple flagrant de l'oppression et de l'agression du front arrogant contre les propriétaires fonciers, de la destruction de leurs biens et du meurtre brutal de femmes et d'enfants. Le leader de la révolution islamique a souligné que la République islamique d'Iran s'opposait à ces atrocités et ces crimes soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays européens, qui sont d'ailleurs condamnés par la raison, la charia et la conscience humaine. Une nation qui possède un pays est opprimée dans sa propre patrie. Des femmes, des enfants et des membres de leur famille sont tués de sang-froid et les infrastructures du pays sont détruites, car certains pays sont seulement témoins de tels actes criminels et s'abstiennent de mettre fin à leur soutien à leurs auteurs, a regretté le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Il est évident que le front arrogant a déguisé la cruauté, l'oppression, l'agression et le meurtre au nom de la démocratie, des droits de l'homme et du libéralisme. Le leader de la révolution islamique a souligné que la République islamique d'Iran devait rester à l'avant-garde de la bataille contre l'arrogance mondiale, renforcer sa lutte chaque jour et ne jamais permettre à quiconque de le vaincre. Il a expliqué que la République islamique d'Iran n'a pas de conflit avec les gouvernements, les pays et les nations, mais qu'il s'oppose à l'oppression, à l'arrogance et à l'agression, comme les événements en cours à Gaza. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a réitéré que la République islamique d'Iran s'oppose à l'aide apportée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays européens aux auteurs de tels actes criminels.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. C'est un débat qui s'annonce prometteur. Nous parlons bien sûr des crimes horribles commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens. Alors on prend connaissance bien sûr que le traitement inhumain, barbare et cruel infligé aux hommes et aux femmes palestiniens en détention. Alors, bien sûr, le mauvais traitement des Palestiniens dans les prisons n'est pas chose nouvelle. Toutes les organisations des droits de l'homme sur place dénoncent bien sûr les actes barbares du régime israélien à l'encontre des prisonniers qui sont en détention, bien sûr, dans les geôles israéliens. Alors, ceux qui sont libérés reviennent très souvent très traumatisés. Ils ne se remettent plus. Nous allons développer donc ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Un rapport des Nations Unies accuse les troupes israéliennes de maltraiter les habitants de Gaza, y compris des femmes et des hommes, durant la guerre, après que des Palestiniens en détention ont signalé des mauvais traitements infligés par les forces du régime. Compilé par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, INRWA, le rapport non publié indique que des centaines de Gazaouis ont été illégalement détenus par Israël pendant le conflit. Au moins 1000 prisonniers ont été détenus par Israël sans aucune inculpation dans trois sites militaires situés dans les territoires occupés, ajoutant que certains d'entre eux sont morts en détention. La principale agence des Nations Unies pour les affaires palestiniennes a déclaré ce lundi 4 mars qu'après leur libération, les détenus de Gaza étaient revenus complètement traumatisés, faisant état des abus commis pendant leur captivité. Ils ont été soumis à un large éventail de mauvais traitements, notamment des menaces d'électrocution, des photographies nues, la privation de sommeil et l'utilisation de chiens pour les intimider, a déclaré le chef de l'INRWA, Philippe Lazzarini, lors d'un point de presse. Une équipe d'experts de l'ONU a également déclaré avoir reçu des informations de sources institutionnelles et de la société civile ainsi que des entretiens directs sur la violence sexuelle contre les hommes et les femmes palestiniennes dans les lieux de détention en Israël lors des perquisitions dans les maisons et les points de contrôle. Les soldats ont été très durs, ils nous ont battus et nous ont crié dessus en hébreu, a déclaré une femme de 39 ans de la ville de Gaza dont l'identité n'a pas été révélée. Si nous levions la tête ou prononcions un mot, il nous frappait à la tête, a-t-elle ajouté. Parallèlement, en Cisjordanie, la mission a déclaré avoir pris connaissance du traitement cruel, inhumain et dégradant infligé aux femmes et hommes palestiniens en détention.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat de Téhéran Maître André Chami qui nous accompagne depuis la France. Monsieur Chami, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, à vos téléspectateurs et à Monsieur Cornu, votre invité.
Oui, avant de joindre Bernard Cornu, je vais m'adresser à vous, André Chami. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous demande de bien vouloir nous excuser pour vous avoir fait attendre. Alors, le débat d'aujourd'hui, bien sûr, concerne le traitement cruel et inhumain infligé aux Palestiniens en détention. Personne ne peut rester indifférent à l'égard des images qu'on voit de la façon dont les Israéliens traitent les prisonniers palestiniens. Que pensez-vous, je vous prie?
Vous savez, c'est une situation qui dure depuis des années par rapport au principe même de la détention, parce que dans ce pays, dans cet État, dans cette entité, comme on veut, il y a une histoire de relation avec les prisonniers. C'est-à-dire, pour les autorités de ce pays-là, il n'y a pas de traitement prohibé pour les prisonniers. Déjà, pour les mettre en prison, il n'est pas nécessaire d'avoir une décision de justice, c'est-à-dire il n'y a pas de condamnation. Ce sont pour l'essentiel, la majorité, ce sont des détentions administratives, décidées par l'autorité administrative, sans possibilité de contester ou d'obtenir l'annulation des décisions administratives afin d'obtenir la mise en liberté de ces personnes-là, que l'on considère comme des prisonniers. Pour moi, je les considère comme des otages, parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas pourquoi vous êtes, on va dire, retenu ou détenu dans le sens administratif du terme, dans la mesure où vous ne savez pas ce qu'on vous reproche, si ce n'est à travers les multiples interrogatoires indéterminés dans leur durée, puisqu'il n'y a pas d'aboutissement, puisqu'on continue de vous faire, d'essayer de vous faire dire des choses qui n'existent pas, y compris à l'encontre de vos voisins, de vos amis, etc., ou de reconnaître des délits ou des crimes que vous n'avez pas commis, sur la base de soupçons inventés par les services de sécurité. Tout cela, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont documentés, qui sont connus et qui sont incontestables. D'ailleurs, les Israéliens les assument quelque part, parce qu'ils disent que c'est notre moyen d'assurer notre sécurité. C'est-à-dire, au profit de la sécurité, on sacrifie l'être humain, on sacrifie les libertés, on sacrifie les droits fondamentaux. Bien entendu, on met en place un système de torture physique, psychologique, mental, pour obtenir des éléments, très souvent, la plupart du temps, je dirais, pour ne pas dire à 99%, les personnes détenues ne peuvent même pas y répondre parce que, encore une fois, c'est sur la base de simples soupçons qui sont très souvent non corroborés par quelques éléments que ce soit, parfois par des dénonciations ou des appels téléphoniques ou des choses comme ça, mais en réalité, il n'y a rien de fondamental qui justifie ces actes-là.
Absolument.
Le traitement inhumain qui est réservé à ces prisonniers-là, a été dénoncé par l'ensemble des organisations internationales qui travaillent sur la question des droits de l'homme en territoire occupé et en Palestine. Par conséquent, aujourd'hui, découvrir que l'entité sioniste foule au pied les droits fondamentaux et le droit international n'est pas une nouveauté, parce que c'est quelque chose qui se pratique depuis 75 ans. Ce n'est pas d'hier. Aujourd'hui, tout simplement, il y a plus de bruit, si j'ose dire, parce que les yeux sont rivés sur la situation en Palestine. Mais pour moi, cette situation est connue et archi-développée par des documents internationaux, y compris par l'ONU, et qui aurait dû donner lieu à des réponses beaucoup plus adéquates de la part des organisations internationales et de la part des États qui soutiennent cette entité-là. Mais rien n'a été fait, y compris en France d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'en France,
absolument,
on ignorait ce qui s'y passe, oui, mais on continue de soutenir cette entité et on continue même d'armer, c'est ce que j'ai dénoncé au cours de mes différentes interventions à ce sujet-là, on continue même d'armer et de financer et d'aider économiquement ce pays.
Absolument. Un grand bonjour à Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est également depuis la France. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tout le monde.
Voilà, nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Bernard Cornu, alors selon André Chami, le mauvais traitement, le traitement barbare infligé aux Palestiniens en détention n'est pas chose nouvelle. Alors que toutes les organisations des droits de l'homme sur place dénoncent le traitement inhumain. Et la plupart, enfin, presque tous les prisonniers en détention sont là illégalement, alors que le régime israélien n'a rien à faire avec les lois internationales et les droits de l'homme. Que pensez-vous, je vous prie?
Non, je crois savoir que même les processus utilisés de détention administrative datent même du mandat de l'Empire britannique, que l'Empire britannique s'était arrogé après les différents traités et la création de l'ASDN. Et en fait, cette période du mandat était une période préalable à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin, déclaration internationale des droits de l'homme par l'ONU. Donc en fait, ce sont de vieilles procédures légales d'un empire, et que l'entité israélienne, l'État israélien, récupère, comme il a récupéré aussi certaines lois du droit ottoman, pour faciliter, disons, son emprise sur la population palestinienne, en contradiction avec les règles modernes du droit des citoyens dans les pays européens, dans les pays développés, à laquelle peut se rattacher l'État israélien, évidemment, au niveau de la modernité. Donc en fait, ces vieilles procédures ne sont plus du tout considérées comme humaines ou légales maintenant différents droits européens, et il n'y a effectivement aucun recours des prisonniers qui restent parfois plusieurs décennies dans des conditions difficiles, et on ne peut pas s'étonner que eux-mêmes, quand ils sortent fatigués, épuisés, et avec retrouvant leur famille avec des années de plus, que ce soit des conditions psychologiques, psychiques et psychiatriques difficiles à vivre, et des conditions évidemment sanitaires très difficiles. Certains ont fait la grève de la faim et sont morts dans la prison, dans les prisons israéliennes. Et effectivement, il est tout à fait juste, tout à fait opportun de montrer que beaucoup trop rarement les États européens se sont souciés de ces prisonniers palestiniens, de ces longues détentions administratives, de ces longues mises en prison sans procès, loin des proches, avec très peu de visites et dans des conditions parfois très éloignées des centres urbains. Ceci est inadmissible, et il serait évidemment il serait normal que nos dirigeants cubains se préoccupent, les députés se préoccupent beaucoup plus de situations critiques. Fermement l'État israélien par tous les canaux possibles afin que cette situation cesse et que le traitement des prisonniers puisse être considéré dans des procédures légales avec des recours, des avocats et des facilités pour exercer des droits tout à fait logiques et normaux à l'époque moderne. Donc ces violations sont inadmissibles et il faut en parler beaucoup plus dans nos médias, il faut en parler dans nos assemblées en Europe pour que les différentes commissions de députés s'en saisissent et fassent des demandes de visite qui sont généralement refusées, évidemment. Celles de la Croix-Rouge aussi sont très souvent refusées, mais ceci est inadmissible et il faut en parler beaucoup plus largement, comme vous le faites aujourd'hui.
Absolument. Maître André Chami, étant donné que le régime israélien n'a aucune honte de diffuser des images des prisonniers, la façon dont ils sont traités, est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'ils prennent du plaisir de commettre de tels actes barbares à l'encontre des femmes et des enfants et des hommes en Palestine occupée?
Il y a incontestablement, je dirais, deux aspects que j'appellerais le voyeurisme qui servirait non seulement à montrer leur cruauté, mais également à donner en quelque sorte une leçon à ceux qui pourraient se faire rattraper par les autorités israéliennes, comme quoi ils risqueraient d'être traités de cette manière-là. Et du coup, ça crée un phénomène de dissuasion, en tout cas dans l'esprit de l'entité sioniste, ça créerait un phénomène de dissuasion pour leur dire « ne nous contrariez pas, vous n'avez qu'à vous soumettre et devenir en quelque sorte des moutons à notre service, sinon il vous arriverait ce qui arrive à ceux que vous voyez ». Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect, beaucoup plus, je dirais, plus vicieux, pour ne pas dire plus cruel encore, c'est que ces personnes-là que l'on torture, que l'on maintient en détention, on en a vu pour des dizaines d'années. Il y en a même, on a vu apparemment, ça fait 25 ans, 30 ans, mais on ne sait même pas jusqu'à quand ça va durer. Sans parler des peines de prison qui ont été prononcées à l'encontre de certaines personnes pour plusieurs vies, parce que quand on additionne les perpétuités infligées à certains prisonniers, parfois vous avez 13, 14, 15 perpétuités, c'est-à-dire il faut avoir 15 vies pour pouvoir exécuter la peine, ce qui démontre que pour eux, c'est quelque chose qui est définitif et qui démontre que ils font ce qu'ils veulent de ces lois-là. Et pour eux, il y a une loi qui va être une loi anti-palestinienne. D'ailleurs, il y a même une volonté de revenir sur la peine de mort et qui sera spécifiquement pour les Palestiniens. C'est-à-dire on peut exécuter un Palestinien, mais l'entité sioniste ne peut pas exécuter un Israélien. Pourquoi on peut exécuter un Palestinien comme si la vie d'un Palestinien ne valait rien, alors que la vie d'un Israélien vaut quelque chose et mériterait d'être protégée. C'est-à-dire, même sur le plan de l'humanité, il n'y a pas la même reconnaissance de l'humanité du côté palestinien ou du côté israélien. Ce sont des éléments que l'on découvre au fur et à mesure, mais en réalité, c'était enraciné dans l'esprit sioniste. Et tant qu'on n'a pas eu un véritable retour vers, je dirais, la profondeur, pour ne pas dire pour percer, ce que l'idéologie sioniste a toujours prévu et a toujours pensé par rapport à ceux qui ne sont pas sionistes, et ce qui est dénoncé par plein de juifs qui sont anti-sionistes, ça veut dire qu'on n'aura rien compris. Il faut toujours revenir vers l'idéologie sioniste. L'idéologie sioniste est une idéologie raciste, est une idéologie qui est ségrégationniste, est une idéologie qui tolère et admet et valide tous les actes pour tous ceux qui viendraient contrarier cette idéologie. C'est-à-dire, dès lors que vous risquez de contrarier les projets de cette entité s'octroie tous les droits contre vous, un droit de vie et de mort sur les personnes et sur leurs biens, sur leurs propriétés, etc. C'est quelque chose qui est phénoménal, mais personne n'a l'air, si j'ose dire, de regarder réellement l'ampleur sur la population palestinienne qui est devenue une espèce de population d'esclaves au service d'une entité. On regarde aujourd'hui parce qu'on a les yeux rivés sur Gaza, mais en réalité, ce sont tous les Palestiniens, y compris ceux que l'on considère comme des Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire ceux qui habitent en territoire dit de territoire 48, ils subissent la même discrimination, ils subissent le même mauvais traitement, et cela s'étend aux Palestiniens du territoire de 67 et également de la bande de Gaza, c'est-à-dire tous les Palestiniens ont à une position dans le classement dans l'idéologie sioniste qui est en bas de l'échelle, au point de leur faire perdre leur humanité. Et d'ailleurs, quand on regarde le traitement qui est réservé à la totalité de la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou en territoire occupé, c'est le même traitement qui consiste à déshumaniser. C'est un terme qu'il faudrait répéter systématiquement et constamment. Déshumaniser une population, c'est-à-dire ne plus lui reconnaître la qualité d'humain. Et ça, c'est, à mon sens, c'est ça la pire des cruautés. C'est-à-dire, à partir du moment où vous placez cette population en dessous même du statut de l'animal, vous prenez un chien ou un chat en Israël, il serait mieux traité qu'un Palestinien en Cisjordanie ou à Gaza. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la profondeur de la haine que porte l'idéologie sioniste. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas diffusé toutes les informations sur ce point-là, tant qu'on n'a pas été en quelque sorte les VRP de l'antisionisme, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je ne cesserai de le répéter, nous avons une guerre idéologique, nous n'avons pas une guerre de religion, nous avons une guerre idéologique contre une idéologie, comme je le disais, raciste et ségrégationniste. Et c'est ça qu'il faut continuer de le dire, et le traitement réservé aux prisonniers ou à la population, c'est du même acabit, c'est à relève du racisme et de la déshumanisation, parce que vous n'êtes plus rien tant que vous ne servez pas la cause de l'idéologie sioniste. C'est ça, je dirais, le plus important à retenir, si j'ose dire, aussi cruel que ça puisse paraître, c'est ça qu'il faudrait retenir, qu'il faut retenir de cette idéologie et de, je dirais, de ce qui en découle à travers le comportement des soldats, à travers les agissements de la police et même parfois
Absolument.
De la justice, mais en tout cas, les geôliers se comportent ainsi. D'ailleurs, quand vous saisissez les avocats palestiniens, quand ils saisissent la justice israélienne pour dénoncer certains traitements, évidemment, ils sont envoyés en quelque sorte dans leur dans les camps, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce mauvais traitement, parce qu'on considère que ce sont des actes administratifs qui ne méritent pas d'être traités comme il se doit.
Des propos très intéressants donc déclarés par Maître André Chami. Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie. Enfin, nous avons l'impression que le régime israélien n'a qu'à faire de l'image qu'il a donc dans la communauté internationale en diffusant donc ces images, la façon dont il traite les prisonniers et les Palestiniens, bien sûr. Ils n'ont même pas aucune honte de le faire, donc on a l'impression qu'ils prennent du plaisir. Est-ce que vous voulez bien conclure, je vous prie, Bernard Cornu?
Il faut rappeler que toutes ces violations sont en contradiction très forte avec le premier document, disons, britannique, qui était la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 du ministre des Affaires étrangères britannique à Rothschild, représentant donc de la communauté juive britannique, qui demandait, qui exigeait que rien ne porte préjudice aux communautés non juives en Palestine. Donc en fait, toutes les violations actuelles sont en contradiction totale. Et ceci invalide toute la validité de cette déclaration de 1917 qui a été, à la demande de la communauté juive, du sionisme, disons, et des Britanniques, intégrée dans les traités après la guerre, après que la France ait un peu résisté pour y préciser les droits civils et politiques des communautés non juives en Palestine. Mais les Anglais et les Britanniques et le mouvement sioniste a fait forcing pour imposer cette déclaration qui donc demandait qu'on respecte les droits des communautés non juives. Pour ceci, on le constate qu'elles ne sont pas du tout respectées et qu'il y a une totalité, un apartheid, une ségrégation complètement indigne de ce que voudraient certaines personnes.
Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci bien sûr à Maître André Chami qui nous a accompagnés depuis la France. Merci d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et ici prend fin le débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 9 à 15 du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets qui nous ont appris
que les mécréants et les païens s'étonnaient de voir que l'un de leurs semblables prétendait être un messager élu par le Seigneur pour leur apporter des avertissements au sujet de la vie après la mort et la résurrection. Or, le noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, n'était pas le premier à être élu comme prophète et messager du Seigneur. Les gens qui niaient la résurrection n'avaient aucun argument solide pour appuyer leurs prétentions. Leur question éternelle était celle-ci. Comment les particules du corps d'un humain, devenues poussière après la mort, pourraient-ils se réunir pour reprendre vie? Pour répondre à cette question, le Saint-Coran dit que Dieu le Très-Haut connaît toutes les évolutions de la matière et qu'il est parfaitement capable de réunir les particules du corps de chaque individu au jour de la résurrection. Dans la vision coranique, le fait de nier la résurrection et la vie éternelle dans l'au-delà est le résultat d'un doute par rapport à la sagesse et à la puissance infinie du Seigneur. Le Saint-Coran souligne que pour connaître la puissance et la sagesse infinie de Dieu, le Très-Haut, il suffirait de lever sa tête et regarder les corps célestes. En effet, le Coran appelle les gens à contempler l'univers de la création pour mieux connaître la sagesse et le pouvoir du Créateur. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 9 à 11 de la Sainte Sourate Qaf. Puis nous vous en donnerons la traduction.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا.
Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers, au régime superposé, comme substance pour les serviteurs. Et par l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Le Coran évoque le cycle de la vie et de la mort dans l'univers naturel, en prenant l'exemple des végétaux. Le Livre Saint souligne ensuite que la vie après la mort et la résurrection pour les êtres humains est en quelque sorte comparable à ce cycle que Dieu le Très-Haut a créé dans la nature. Au jour de la résurrection, les poussières se réunissent et les hommes reprennent vie grâce à la volonté et à la puissance du Seigneur, tout comme les graines des arbres. En effet, ce n'est pour Dieu ni impossible ni improbable. Ces versets du noble Coran nous apprennent que l'eau est l'élément principal de la vie sur la terre. Le cycle de la vie des arbres est un signe important de la sagesse divine. La résurrection et la vie éternelle dans l'autre monde sont des promesses divines et elles se produiront sans aucun doute grâce à la volonté du Seigneur. Ce sont des leçons pour les gens qui y croient. Voici maintenant les versets 12 à 14 de la Sainte Sourate Qaf.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Al-Ras et les Thamoud crièrent au mensonge, de même que les Had et Pharaon, et les frères de Lot, et les gens d'Al-Aka, et le peuple de Touba. Tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifiera. Le noble Coran donne l'exemple des peuples d'antan qui ont été tous anéantis, car ils n'avaient pas foi en Dieu et parce qu'ils niaient les messagers que Dieu, le Très-Haut, avait élus pour les guider vers la lumière et vers la foi et la croyance. À l'époque de l'avènement du noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, les pagans de la Mecque rejetaient son appel et insistaient dans leur ignorance et prétendaient suivre leur tradition ancestrale. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager que ce rejet avait son origine dans l'obsession, le fanatisme et l'ignorance, en rappelant que plusieurs peuples d'antan avaient été châtiés pour leur mécréance. Ces versets du noble Coran nous apprennent que le Seigneur a créé le monde et il a créé les humains. Il leur a envoyé ensuite ses messagers pour les guider vers la lumière et les sources de la vérité. Dieu le Très-Haut a donné ainsi aux humains la possibilité de connaître la vérité, connaître leur Créateur et emprunter le chemin du salut et de la perfection. En outre, Dieu a donné aux humains la liberté et le sens du choix. Autrement dit, le salut n'est pas le destin de l'homme, mais plutôt son choix. Écoutons enfin le verset 15 de la sourate 50 du noble Coran. Quoi, avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Parmi les mécréants et les païens, il y avait ceux qui ne rejetaient pas l'idée de la création de l'univers et de l'homme par Dieu. Mais ils s'abstenaient de croire au concept de la résurrection qu'ils considéraient comme impossible et improbable. Ce verset du noble Coran nous apprend qu'il n'y a pas place pour aucun doute en ce qui concerne la sagesse, la puissance et la volonté du Seigneur de recréer l'homme au jour de la résurrection. Dieu est parfaitement capable de recréer ce qu'il a créé une fois. Il est essentiel que les messages de la religion dans ce domaine soient exposés de la meilleure manière, afin que les gens qui les rejettent, les comprennent d'une manière claire et logique. Les gens qui rejettent le concept de la résurrection n'ont aucun argument solide pour appuyer leur point de vue. Ils prennent donc le doute pour raison. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Thank you.